Ouais, alors ça c'est vaste, hein. Ça fait je ne sais pas combien, 12 ans, 15 ans que je travaille dans cette association, bénévolement bien évidemment. Et puis, eh bien, après une période de présidence de l'association de 2010 à 2014, je suis vice-président et homme à tout, petite main de l'association, mais j'aime ça.
Oui, parce que finalement, être bénévole, c'est aussi faire tout un tas de choses et pas que l'administratif ou la
Il
programmation
n'y
ou
a
des choses
pas que
comme ça.
ça, je sais pas. J'ai un exemple qui me vient comme ça parce que ça m'a beaucoup marqué. Je peux vous dire que dans la collégiale de Camp de Saint-Martin, il y a 450 chaises parce que il nous est arrivé pour l'orchestre symphonique de Tours, région centre, de faire un demi-tour aux 450 chaises avant le concert et de leur refaire faire un autre demi-tour après le concert. Voilà. Ça, c'est le boulot des petites mains d'une association.
Oui, voilà, ça a l'air de rien, mais ça prend quand même du temps. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de cette association Musique et Patrimoine, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose? Évidemment, il y a ces deux mots distincts, musique et patrimoine, donc j'imagine qu'il y a un lien entre les deux. Quelle est l'histoire de cette association et qu'est-ce qu'elle fait concrètement?
Alors l'histoire, c'est une association qui a été créée en 1998 pour prendre la succession de ce qui s'appelait à l'époque le Festival de la Voix, qui était une association qui présentait des concerts, beaucoup de pièces d'opéra, d'opérettes, à la fois sur Loches et sur Chinon, et puis qui a connu des difficultés financières. Et voilà, donc pour prendre la suite, a été créée cette association Musique au pluriel, j'insiste au pluriel, mais on y reviendra, et Patrimoine. Musique et Patrimoine, ça veut dire que nous organisons des concerts de musique. Tout le monde entend musique variée parce que ça n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui musique amplifiée ou voilà. On reste dans, mais je ne sais pas, et on y reviendra avec Nathaël aussi. Sur ce qu'est la musique classique ou ce qu'on peut entendre par musique classique, moi je ne sais pas très bien. Et donc ces concerts, on essaye de les organiser dans des lieux patrimoniaux connus ou pas connus, au maximum dans des lieux patrimoniaux pas connus, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà. La curiosité faisant que les gens se déplacent plus facilement quand c'est dans un lieu inconnu.
Deux choses qui sont intéressantes dans ce que vous dites. Premièrement, l'histoire du patrimoine. Pourquoi organiser finalement un concert ou en tout cas une représentation d'artiste dans un lieu de patrimoine? Qu'est-ce qu'on entend aussi par lieu de patrimoine? Est-ce qu'on parle de château? C'est vrai que ici il y en a beaucoup en Touraine. Est-ce qu'on parle d'abbaye, de prieuré, de choses comme ça?
D'abord pour une raison toute bête, c'est que sur Chinon, parce que nous sommes sur Chinon, et même si nous avons rayonné à une époque très au large de Chinon, puisque nous allions jusque Peille-la-Vineuse, Langeais, Azay-le-Rideau, bon maintenant ça n'est plus possible, mais nous n'avons pas de salle de concert à proprement parler sur Chinon. Il y a la collégiale Saint-Mesmes, mais ça n'est pas très grand. Donc, un petit peu contraints et forcés, nous sommes allés voir ailleurs. Et ailleurs, c'est des églises, de petites églises. On a la chance d'avoir la collégiale de Cannes, mais voilà, pour différentes raisons, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, ça peut être l'église de Tavan, ça peut être le sanctuaire carolingien de Cravant-les-Coteaux, ça peut être un château privé, et notamment nous y sommes allés plusieurs fois, nous avons fait découvrir des châteaux qui n'avaient jamais été ouverts au public, notamment autour de Richelieu. Mais ça peut être une grange, ça peut être n'importe quoi qui quelque part nous a attiré l'œil et nous a plu, et on souhaite le faire partager dans la musique. avec tout le monde.
Dans la musique, et on peut revenir d'ailleurs tout de suite sur ce que vous avez dit, musique au pluriel, quel genre de musique finalement pour ces lieux? Parce qu'on ne va pas, évidemment, on s'imagine mal dans un lieu culturel ou de patrimoine, on imagine mal un concert de hard metal ou de rap ou choses comme ça.
Mais je ne sais pas, pourquoi pas,
ça ne vous choquerait pas?
Non.
Alors du coup, vous en proposez aussi ou c'est plus de la musique classique, etc.
Alors voilà. Là, on va tomber sur le problème de la définition de ce que sont des choses qui ne sont, à ma connaissance, pas très bien définies. Musique sacrée, musique classique, qu'est-ce que ça veut dire? Musique classique, on peut considérer que ça correspond à une période de 70 ans, en gros, de 1750 à 1820. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la musique classique. Le reste, je sais pas trop bien comment définir ça.
Oui, c'est vrai. En fait, la période que vous mentionnez, 1750-1820 à peu près, c'est entre la mort de Bach, si je me trompe pas,
oui.
et la période de Beethoven, en fait.
C'est, oui,
grosso
c'est
modo,
ça.
C'est ça. Et après, dès les années 1820, il y a ce qu'on appelle la musique romantique,
oui,
qui a pris le dessus.
Voilà.
Mais bon. Musique romantique et classique, c'est quand même deux musiques, on va pas se le cacher, qui sont très très liées, qui sont mère et fille, et la musique romantique se distingue par la musique classique que dans ces sentiments qu'elle dégage.
Oui, pour moi, il n'y a pas de différence entre musique classique et musique romantique, ou musique baroque, ou je sais pas. La musique, pour moi, c'est d'abord une émotion. Quel que soit le type de musique, on a présenté, alors on y reviendra peut-être, mais on s'efforce de présenter des choses d'abord que vous n'entendez pas ailleurs, et puis avec des ensembles, ou présenter aussi des ensembles connus, très connus à l'étranger, et pas forcément connus et reconnus en France. Juste un exemple, les instruments avant, en France, ont leur place dans l'orchestre, dans un orchestre symphonique, ça ne pose aucun problème, mais ils y sont bien et il faudrait qu'ils y restent. Or, vous avez on a déjà programmé les trompettes de Lyon, par exemple. Les trompettes de Lyon, vous allez aux États-Unis, c'est un ensemble connu, reconnu, invité régulièrement. Vous parlez des trompettes de Lyon en France, en dehors des trompettistes, personne ne sait trop. Là, cette année, on fait revenir un quatuor de clarinette ultra connu à l'extérieur et en France, pas du tout. Donc c'est un petit peu la démarche qu'on a prise, parce que pour différentes raisons. Mais d'abord, il y a 20 ans, quand l'association a été créée, il n'y avait pas beaucoup d'associations présentant de la musique dite classique. Alors, je ne sais pas comment dire, donc je mets classique entre guillemets. Aujourd'hui, il y en a partout. Sur le Chinonnais, on s'est rendu compte qu'on avait un public, alors je ne sais pas comment dire, en mathématiques, on dit un public fini. C'est-à-dire qu'on connaît le volume
le
maximum,
potentiel, quoi,
le potentiel.
Voilà.
Et donc, se partager ce potentiel, plus il y a d'associations, plus il y a de propositions, et moins chacun aura de spectateurs. Donc on s'est dit à un moment, notamment aux alentours des années 2010, il faut qu'on trouve une autre solution. Et puis la musique classique passe très mal. Quand on parle de musique classique, on nous a longtemps accusé d'élitisme.
Oui, parce qu'il faut aussi le mentionner, la musique classique, c'est à la base aussi la musique qui se distingue de la musique populaire.
Voilà.
À l'époque, au XVIIIe siècle, il y a aussi cette définition de musique classique.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que c'est resté aussi dans les mœurs, notamment aujourd'hui, où la musique classique est peut-être, à tort ou à raison, synonyme de bourgeoisie, d'élitisme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est erroné ou que c'est plutôt vrai?
Non, je pense que c'est complètement faux. Complètement faux. La musique classique n'est pas réservée à une minorité ou... à des gens ayant un petit peu plus de culture que les autres, ça devrait être ouvert à... D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Pour nous, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Mais non, je ne sais pas. Nous, on programme Qu'est-ce que je peux vous citer? Un chœur corse, est-ce que c'est de la musique classique ou est-ce que ça n'est pas de la musique classique? La définition, pour moi, n'a pas grande importance. L'important, c'est le plaisir que peuvent prendre les spectateurs en venant écouter ça. Je ne sais pas, des chœurs orthodoxes, c'est un moment, vous savez, vous avez les oui, poils des
ça
bras
prend au
qui
trip,
se
quoi,
dressent.
C'est, ouais.
Oui, c'est... Alors, je suis très gêné par cette appellation musique classique. Je ne sais pas, le quatuor, le... Alors, on fait les deux, si vous voulez, si on peut commencer à parler du programme.
Oui, on en reparlera bon, un peu plus tard, mais si vous voulez en dire brièvement quelques mots,
oui,
allez-y.
Dimanche prochain, dimanche 29 octobre, c'est vraiment un concert de musique classique.
Voilà, pour le coup, 100% classique dans
100%
le sens strict du terme.
Voilà. Et puis le 25 novembre, on fait venir le quatuor de clarinette enchanté. Voilà, on n'est plus du tout dans le domaine de la musique classique. Et puis le 16 décembre, le best-of de l'orchestre de contrebasse. Tout le monde à Chinon connaît l'orchestre de contrebasse, parce que c'est Christian Jantet qui est de Chinon qui a monté ça. C'est un spectacle à la fois visuel, musical, humoristique, voilà, tout ça mélangé. Et alors on met ça dans la musique. Bon, est-ce que c'est vraiment... Il y a de la musique, c'est sûr, de la musique classique, des arrangements de musique classique. Il y a de la musique de variété. Enfin, voilà, vous avez un panel de musique, mais vous passez un moment pas uniquement musical, parce que c'est aussi, il y a aussi un spectacle, il y a aussi il y a du visuel, il y a beaucoup de choses.
Alors l'association Musique et Patrimoine, elle entend aussi réintroduire des interprètes des œuvres, vous l'avez dit, qui ne sont pas habituellement programmées en milieu rural. J'insiste sur ce mot rural. Est-ce que c'est finalement un désert, comme on parle beaucoup des hôpitaux, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas certains déserts culturels en France, notamment par rapport à ces musiques?
Non, j'ai pas l'impression que ce soit un désert culturel, parce que sur Chinon, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Pas uniquement la musique classique, il y a beaucoup de musique moderne, beaucoup, beaucoup de musique amplifiée. Il y a une très, très grosse proposition de culturellement parlant, je trouve qu'il y a beaucoup de propositions sur Chinon et les environs. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas un désert culturel. Simplement que ce que je veux dire, ce qu'on essaye de proposer, ça ne se limite pas, c'est pas quelque chose qu'on ne voit pas dans le milieu rural, même si nous sommes en milieu semi-rural ou rural, c'est quelque chose qu'on n'entend pas à Nantes non plus. Si je vous parle de musique indonésienne, on a fait venir deux fois un gamelan, qui est un orchestre de musique indonésienne.
Eh oui, donc ça c'est peu
vous
n'avez
jamais entendu ça à Tours.
Ah oui. Effectivement, bah c'est oui, c'est vrai que là pour le coup la distance géographique fait aussi que on n'entend pas ce genre de musique, mais bon, c'est vrai que
non. Et voilà, je sais pas, on a fait un concert de musique traditionnelle chinoise. Vous n'entendez pas ça à Tours non plus. Je sais pas, il y a, on essaye d'ouvrir au maximum sur des choses qu'on voudrait faire découvrir parce que personne n'a l'occasion d'entendre ça.
Qu'est-ce que vous disent les gens qui se rendent au concert? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que c'est un bon mix finalement, les musiques je dirais inhabituelles, les musiques inhabituelles, musique avec un S hein, évidemment,
oui.
Et le patrimoine, est-ce qu'ils sont ravis? Quelles sont un peu leurs réactions? Est-ce qu'ils sont étonnés aussi? Parce que c'est pas commun de voir ce genre de concert dans des lieux atypiques finalement.
Alors généralement, ils sont ravis des lieux où nous programmons ces concerts. Ce qu'on entend le plus, c'est la difficulté qu'ont les gens justement à faire la séparation entre musique classique et musique différente. Et on a perdu une partie de notre clientèle qui venait pour la musique classique parce que pendant les 10 premières années, la programmation était vraiment musique classique au sens propre. Et puis maintenant, eh bien, il y a des gens qui nous suivent, qui viennent de Saumur, qui viennent de Loudun, qui viennent de façon générale beaucoup plus large que le chinonais proprement dit, et qui sont ravis de venir écouter des choses qu'ils découvrent quelquefois en même temps que nous. Mais voilà, il y a une part de surprise, mais on s'efforce toujours de trouver des ensembles de très très haute qualité.
Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes techniques aussi à mettre en place des concerts dans ces endroits-là? Parce que j'imagine que, bon, évidemment, c'est des endroits certes restaurés, mais il manque peut-être des câbles, des prises électriques, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers techniques pour vous installer
Ah
dans
oui, mais
ces endroits?
ça on trouve toujours une solution. On a un technicien qui est Monsieur Nicolet pour ne pas le nommer. C'est pas de la pub, il vient de prendre sa retraite. Mais voilà.
Bon,
Non,
bah,
non.
s'il nous écoute, hein, c'est une petite référence à son
Ouais, c'est un
travail.
petit clin d'œil parce que je l'aime bien. Et puis, non, non, on trouve toujours, on s'adapte, on trouve toujours une solution. Le gamelan dont je parlais tout à l'heure, là, la première fois, on a donné ça dans un château privé, dans la salle de réception. Il y avait un billard français et il y avait un piano à queue, un queue entier dans... Bon, il a bien fallu déménager ça. Et qui s'est farci ça? Les bénévoles de
Et voilà,
l'association, les
donc
petites mains, par exemple.
voilà,
Voilà.
et vous faites aussi de la musculation finalement, c'est
On fait tout. Et
double tranchant.
comme ce salon n'était pas assez grand, on mettait, mais alors, on avait mis 80 personnes, on s'est arrangé avec les artistes qui étaient là, en leur demandant s'ils avaient la possibilité de donner une deuxième représentation. Et en fait, ils ont donné deux représentations dans l'après-midi. Voilà. Mais ça, c'est le contact, c'est la bonne entente, c'est qu'on peut avoir avec les artistes, et voilà. Et ce sont généralement des gens charmants.
Alors, on parlait de musique classique tout à l'heure. Je vous avais promis
Oui.
un petit quiz, un petit blind
Oui,
test même. Alors,
j'attends ça avec un
ah,
peu de
je vous vois
désespoir parce que.
frémir, mais non, non, il n'y a rien de terrible. De toute façon, j'ai les réponses. Donc, au pire,
Oui,
je comblerai
je ne suis pas
l'absence
musicien
de
et
réponse.
surtout pas musicologue.
Bon, en tout cas, je mets un petit jingle et puis on peut y aller pour le
Allons-y.
quiz. Alors, ce blind test, c'est exclusivement du coup de la musique classique. Je vais vous
Oui.
proposer des musiques et vous allez essayer de trouver évidemment le compositeur et le titre du morceau. Ça serait parfait. Première musique, est-ce que vous êtes prêt?
J'écoute.
Alors, attendez, je vérifie si en technique tout est bon. Voilà, on devrait être bon.
Bah évidemment que je connais ça.
Alors, verdict,
Lettre
réponse
à Elise.
de...
Pas deux, 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 je n'en sais rien.
C'est de Beethoven. Alors
Voilà.
d'ailleurs, ce morceau, en fait, s'appelait à la base Lettre à Thérèse, parce que Thérèse, c'était son ancienne femme et aussi la femme dont il était tombé amoureux, qui a refusé d'ailleurs sa demande en mariage. Et ce morceau a été composé en 1810, et c'est qu'après qu'il y a eu il y a eu une erreur sur le nom du morceau qui est devenu Lettre à Élise. Voilà, c'était
Oui,
pour
mais
la petite.
ça on connaît parce qu'il y a 20 ans, on avait ça dans tous les ascenseurs.
Oui. Oh ben c'était pas si vieux il y a 20 ans. Mais très belle musique, cela dit.
Très très belle.
Deuxième morceau, attention. Un peu plus dur.
Là, non, c'est une valse, je vous donnerai pas.
Exactement, c'est une valse viennoise
Oui, oui,
composée en
oui. Le
1866 par...
Strauss.
Exactement,
Alors, je ne
Johann
sais pas si c'est
Strauss.
le père ou le fils.
C'est le fils.
Voilà.
Johann Strauss,
Et c'est le
fils.
Bodhadium bleu?
Exact. Parfait,
Oh
sans
non,
faute.
oh non.
Parfait, parfait. Alors, troisième morceau. Pour l'instant, on est sur un sans faute. Ma préférée, celle-là.
Ah oui, évidemment que je connais ça aussi. Je n'oserais pas dire Vivaldi.
Non, c'est Pachelbel, le canon de Pachelbel.
Ah oui.
Et d'ailleurs, bon, c'est une musique qui a été reprise sur plusieurs rythmes différents. Là, pour le coup, ce qu'on a entendu, c'est un rythme plutôt lent.
Oui.
Mais elle existe aussi sous forme beaucoup plus rapide, beaucoup plus tonique. Hein, c'est en fonction des interprétations. Quatrième musique.
Oui, évidemment.
C'est un peu plus dur, même si c'est vrai que c'est des musiques qu'on entend régulièrement dans les pubs d'ailleurs. Souvent, elles sont reprises dans
du les Beethoven pubs.
Non, c'est Prokofiev, Danse des Chevaliers.
Non, je connais la musique, mais
Ni
le titre ni le.
Et du coup, dernier morceau. Pour l'instant, deux points sur quatre.
Ouais.
C'est pas mal, c'est la moyenne. Alors du coup, on va essayer de viser les 3 sur 5 avec ce dernier morceau. C'est parti.
Alors, je me souviens de ça dans le film Le Parrain.
Oui. Mais il y a énormément, j'insiste là-dessus, c'est vrai, mais parce que finalement, ça revient presque à la mode. Il y a énormément de musiques classiques qui sont soit utilisées dans les films ou les publicités.
Bien sûr.
Et ça, on les connaît finalement, toutes ces musiques, on les a entendues quelque part, mais on ne saurait pas dire de qui c'est quoi. Alors là, du coup, réponse. Je pense que c'est la plus dure, celle-là, vraiment.
C'est aussi une valse, mais non, je ne sais vraiment pas de qui.
Exactement, c'est valse numéro 2 de Dimitri Shostakovich.
Oh, bah écoutez.
Ah bah c'est... Mais en tout cas, vous en avez très bien tiré, 2 sur 5.
Bah 2 sur 5, non, mais...
Non, mais c'est pas mal pour quelqu'un
si,
qui...
Je pense que je m'en suis bien tiré en trouvant 2 déjà.
Alors pourquoi je vous ai fait écouter de la musique classique pour ce petit blind test? C'est parce que du coup, on va venir à cet événement qui a lieu dimanche, 29 octobre.
Oui.
Qui est un concert de musique classique à l'espace... Alors attendez que je reprenne
mes notes. L'espace Rabelais
à Chinon. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus en détail de ce concert? Et pour le coup, l'espace Rabelais, ça a rien de patrimoine ou est-ce que
Ah non,
je me trompe?
Rien.
Rien à voir.
Non. C'est une salle relativement moderne, un petit peu difficile à utiliser pour des concerts parce que même si l'acoustique a été bien améliorée, ça reste encore difficile. Mais ce concert-là, c'est pas... c'est un concert donné par l'orchestre Carte et Sixte. Alors, Carte et Sixte, c'est quoi? C'est des jeunes gens qui sont au conservatoire à Tours, au conservatoire à Paris, qui se réunissent pour jouer ensemble sous la direction d'un chef qui est de leur âge, qui s'appelle Simon Proust, et qui est quelqu'un d'absolument fantastique. Et on avait eu l'occasion d'entendre Carte et Sixte en 2010, quelque chose comme ça, ou 2012. Et les ayant entendus, on les a programmés l'année suivante, et depuis, tous les ans, on les programme. Et alors, voir, c'est comme tous les orchestres symphoniques, un élément à taille variable, voilà. Mais voir tous ces jeunes qui ont 18 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Simon Proust, pour moi, il a toujours 20 ans, mais ça fait 6 ans qu'il a 20 ans.
J'en ai 26 du coup.
Oui, mais ça reste quand même très jeune pour un chef d'orchestre. Et voir l'enthousiasme avec lequel et le plaisir avec lequel il joue, je trouve que ça n'a pas de prix et en plus quand la musique est belle, c'est vraiment un moment de grâce. Et on sait que si on programme Carte et Sixte maintenant, ils ont leur fan club à Chinon et les gens se déplacent pour Carte et Sixte. Et alors là, cette année, on a demandé à Simon Proust de nous faire un concert de musique classique. Et donc, il a travaillé comme... comme je sais pas comment d'ailleurs.
mais comme un stakhanoviste.
Voilà. Oui, justement. pour faire pour nous préparer un concert qui aille de Bach à Beethoven en prenant des petits morceaux de chacun, en mélangeant ça, et c'est vraiment le concert unique donné pour, ce sera une création d'ailleurs, donné pour musique et patrimoine. Mais Simon, on l'adore, et tous les musiciens de Quartet Sixte, c'est absolument fantastique et fabuleux.
Finalement, cette programmation de musique classique, elle fonctionne. Est-ce qu'elle attire aussi les jeunes? Parce que vous me parlez des musiciens qui sont bons jeunes, mais est-ce que le public aussi est plutôt jeune ou pas? Est-ce qu'on préfère pas le rap?
Je pense que les jeunes, j'ai des petits-enfants qui préfèrent le rap. J'ai un petit-fils qui, depuis des années, essaye de se lancer dans le rap et lui ne veut pas entendre parler de musique classique. Voilà. Mais c'est très bien comme ça. Mais les jeunes, on n'a pas un gros public de jeunes, déjà parce que dans la région... La moyenne d'âge ne s'arrange pas. La population est plutôt du troisième ou du quatrième que
du premier.
Que du premier. Voilà. Et puis, c'est aussi une des raisons qui nous a amené à préférer une programmation le dimanche après-midi à 17h. Alors, cette année, vous ne verrez pas, il y a des concerts le dimanche soir. Mais c'était aussi une façon de... Parce que les jeunes nous disaient à juste raison, on a des enfants, il faut les faire garder ou les amener, c'est pas toujours facile. Donc on s'est dit peut-être que le dimanche à 17h, ce serait plus facile pour eux de se déplacer et de venir. Ça ne répond pas tout à fait à nos attentes, mais bon, l'espoir fait vivre et on continuera.
Est-ce que vous pouvez me parler aussi des prochains événements, pardon, je bégaye un peu, le samedi 25 novembre notamment, puisque c'est un concert, alors pas si classique, c'est l'intitulé exact du concert, à oui. L'abbaye de Seuilly.
Oui.
Alors là, pour le coup, on a vraiment un mix
un
de
lieu
musique
patrimonial.
Et voilà,
complètement.
Un lieu patrimonial.
Oui, oui, on est complètement dedans, là. C'est un quatuor de clarinettes qui s'appelle les Anges Hantées. Le jeu de mots est...
C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le
oui.
fameux quatuor
oui.
de clarinettes.
Et c'est la deuxième fois que nous les faisons venir. On les a fait venir en 2014, de mémoire. Où là, en 2014, c'était vraiment musique classique adaptée à quatre clarinettes. Là, ils ont changé un petit peu de registre et ils se sont plus tournés vers l'humour musical.
Avec les clarinettes.
Avec les clarinettes, bien sûr.
D'accord.
Oui, oui. Je
on
sais
peut,
pas. Une clarinette
basse.
On peut
faire de l'humour avec de la clarinette.
Ouais. peu de gens ont vu et entendu une clarinette basse et je dirais pas uniquement pour ça il faut venir, mais c'est quand même très surprenant de voir ce que peuvent faire quatre clarinettes jouant ensemble sur de la musique qui n'a pas été écrite pour eux.
Oui, oui, et qui à la base, c'est vrai que
oui,
c'est pas destiné forcément aux clarinettes.
Remplacer des violons par des clarinettes, c'est vrai qu'au départ... Mais on a eu Bach en marimba avant... faire jouer du Bach sur des marimbas, ça paraît pas non plus évident.
Oui, mais du coup, c'est authentique et puis ça change un peu, c'est un air frais un
et
peu.
Et puis
c'est ce que finalement les gens recherchent ça aussi. Hein.
Il faut quand même écouter ça parce que c'est on aime ou on n'aime pas, ça n'est pas le sujet. Mais je trouve bien que les gens fassent l'effort de venir. Voir ce genre de choses qui ne sont pas des choses très courantes. Mais les enchantés, il faut absolument venir voir ça.